Merci Antoine Denecher et bonsoir à tous. Nous sommes ce soir dans les studios de France Bleu Loire-Océan. Sur la route, Julie Gacon avec Yvon Croisier et Sophie Bobert. Un orchestre symphonique dans une cité. Beethoven au milieu des HLM. Et tout s'est très bien passé. Les gens avaient l'air contents. Les enfants ont écouté avec les yeux grands ouverts, t'as vu ça? Bon, les grands frères, eux, ils faisaient leur barbecue à côté. Après tout, on n'est pas obligé d'aimer Beethoven. Mais c'était un bel après-midi. Eh bien, tu vois, Yvon, c'est ça qu'il devrait faire au gouvernement quand il y a des manifs avec des casseurs. Plutôt que les CRS, c'est la musique de la garde républicaine qu'il faut envoyer. Frédéric Lodéon, ministre de l'Intérieur, et on n'en parle plus. Façon 06. Plantons le décor. Saint-Nazaire, un quartier populaire, rue Vasco de Gama, comme si elle devait toujours contourner le cap de Bonne-Espérance, traversant les immeubles HLM bas, dont les fenêtres donnent sur des préfabriqués, qui donnent sur un chantier qui ne donne pour l'instant pas grand-chose. Une camionnette arrive sous un ciel menaçant, la météo a annoncé l'orage, on se hâte de sortir les pupitres, les musiciens arrivent un à un et tous ensemble s'accordent. Le chef est en place. Ah, un retardataire, un musicien qui arrive à bout de souffle. Heureusement, c'est un violoncelliste. Ça fait rire le public, une soixantaine de personnes qui toutes sont allées chercher leurs chaises dans les locaux tout neufs du Secours Populaire, lequel prête son parking pour l'occasion. Le parking des accueillis, dit Madame Castel, la responsable, car il ne faut plus dire bénéficiaire. Le silence se fait, peu ou prou. Un orchestre symphonique dans la cité. Au programme, la deuxième symphonie de Beethoven, Philippe Huy à la baguette. Bonsoir Philippe Huy.
Bonsoir.
Il faut décrire encore un peu les lieux. Nous sommes sur le parking du Carrefour des Solidarités à Saint-Nazaire. C'est un grand hangar qui rassemble plusieurs associations caritatives, mais vous êtes sur le parking.
Oui, nous sommes sur le parking devant ce bâtiment qui, comme vous l'avez si bien dit, abrite quatre organisations qui sont solidaires, on va dire, par principe.
Secours Populaire Croix-Rouge Française.
Les Restos du Cœur et la Banque Alimentaire.
Alors, ce parking, c'est pas forcément la meilleure des acoustiques. Comment la symphonie numéro 2 résonnait à vos oreilles ?
Évidemment, c'est pas comme une acoustique favorable d'une belle salle de concert, forcément. Mais il y a des choses qui sonnent finalement pas si mal, parce qu'il y a le mur de fond qui permet de renvoyer un peu le son. Et puis, il y a l'attention du public qui aussi, je dirais, fait sonner de façon un peu différente.
Est-ce que vous êtes, dans ces occasions-là, plus attentif que vous ne le seriez si vous jouez ou quand vous jouez dans un festival en plein air, mais devant des amateurs, des mélomanes ?
On est différemment attentif. Hein. C'est-à-dire que là, l'objectif, on n'est pas dans une dimension d'un concert traditionnel. Donc il n'y a pas les codes. Par exemple, là, les gens spontanément applaudissent à la fin du mouvement, ce qui normalement se fait très peu dans un concert officiel. Et puis les gens font silence dans un vrai concert. Là, les gens, s'ils ont envie de se faire part de leurs remarques, de faire part de leurs ressentis, ils se sentent autorisés à le faire.
Vous entendez parfois cet avion qui s'apprête à atterrir, une mobylette qui passe. Est-ce que vous arrivez à être 100% concentré dans votre musique ?
Alors en général, ces bruits parasites, on va dire, ou accessoires à la musique, s'entend, et au public, je ne les entends pas, curieusement. Hein. Donc, l'avion, s'il passe vraiment au-dessus, comme c'est souvent le cas à Saint-Nazaire maintenant, du fait de
l'aéroport,
puis surtout l'industrie Airbus, qui est absolument florissante sur Saint-Nazaire, comme vous le savez. Mais sinon, sincèrement, je les entends très peu parce que je reste très concentré dans ce qu'on fait.
Voilà, vous savez qu'il peut y avoir des inattendus, mais vous en faites fi le temps du concert. Combien de musiciens compte la Philharmonie des Deux Mondes, l'orchestre symphonique dont vous êtes le chef d'orchestre ?
Alors, l'effectif de base, c'est entre 35 et 40 musiciens. Et il se trouve qu'une fois par an, on fait aussi un programme d'orchestre de chambre avec 15 ou 20 musiciens. Mais c'est dans sa version symphonique, c'est autour de 35 musiciens.
Donc tous musiciens professionnels et qui souvent, par ailleurs, enseignent dans des conservatoires.
Alors ils sont tous musiciens professionnels, effectivement, et ils sont presque tous enseignants parce que c'est précisément le but de cet orchestre-là, c'est de faire jouer ces musiciens-là. Ça n'est pas de trouver un complément d'activité à des musiciens qui seraient déjà dans des formations symphoniques reconnues et stables, mais c'est vraiment de donner la possibilité à ces professeurs d'instruments de jouer dans un environnement professionnel favorable.
Voilà, tous sont de Loire-Atlantique. Alors vous parliez du public qui parfois chuchote, fait part de ses remarques, mais l'ambiance est aussi décontractée du côté des musiciens, personne n'est en costume.
Dans ces concerts promenades, comme on appelle, bien sûr, personne n'est en costume, puisque l'objectif, c'est vraiment de s'approcher au plus près de la population et de faire quelque chose de finalement pas guindé du tout, bien entendu, et de le moins convenu possible.
Et je crois que vous portiez d'ailleurs la même chemise que vous avez aujourd'hui dans les studios de France Bleu.
Alors j'y ai pensé, mais en fait, c'est pas tout à fait la même. Mais vous avez un esprit d'observation tout à fait intéressant. C'est le même genre de chemise, absolument.
Sauf que là, vous l'avez bien entré dans votre jean et elle était un peu sortie du pantalon.
Et je vois que rien ne vous échappe.
Bon, ambiance décontractée, mais il y a quand même un sérieux, une rigueur forcément. On est avec Beethoven.
Beethoven déjà appelle à la rigueur et puis je dirais que l'art symphonique appelle à la rigueur.
Thank you. la fin du premier mouvement de la deuxième symphonie de Beethoven que vous avez joué, Philippe Huy, ce jour-là, en deux quartiers de Saint-Nazaire, donc près des locaux du Secours Populaire, puis dans le quartier de la Galicheraie. Comment vous avez choisi ces quartiers? Pourquoi là?
Il y a deux raisons qui ont présidé à ce choix. La première raison, c'est que j'avais depuis très longtemps envie de faire quelque chose avec le Secours Populaire. Et il se trouve que la rencontre avec Monique Castel nous a permis de réaliser ce rêve, en quelque sorte. D'ailleurs, il sera prolongé, puisque maintenant, le Secours Populaire prendra des places à tarifs très privilégiés pour nos concerts et amènera des accueillis, donc, puisqu'on doit les appeler ainsi, à ce concert, ce qui me paraît particulièrement intéressant. Et puis la Galicheraie, ça a été choisi en complicité, je dirais, avec deux organismes de Saint-Nazaire, la Silène d'une part, qui est l'office HLM, et d'autre part, la Fédération des maisons de quartier, qui anime un certain nombre de maisons de quartier précisément dans la ville, et qui, au fur et à mesure des années, m'indique les quartiers dans lesquels elle aimerait que nous intervenions.
Alors, ce n'est pas la première année que vous faites ça. La Philharmonie des Deux Mondes, elle date de 2015. Et l'année dernière, vous avez déjà donné plusieurs promenades-concerts, comme on dit. Alors, dans différents quartiers, la Bouletterie, Plaisance, la Trébal, Cardurand. Saint-Nazaire ne manque pas de quartiers populaires, Philippe Huy.
Saint-Nazaire est une ville populaire par essence. Je dirais même que c'est ce qui la caractérise. Et c'est une ville surtout solidaire. C'est le plus important, je dirais encore, que de dire populaire, parce que ça pourrait sous-entendre une connotation un peu. C'est surtout une ville très solidaire. Dans l'histoire de la vie ouvrière en particulier, il y a de nombreuses luttes qui ont démarré à Saint-Nazaire, au début du XXe siècle en particulier.
C'est ça qui vous a attiré à Saint-Nazaire, car vous n'êtes pas nazérien, vous êtes parisien d'origine.
Je suis parisien d'origine, mais ça faisait bien longtemps que j'avais envie de quitter Paris. Les hasards de la vie privée ont fait que j'étais attiré par Saint-Nazaire. Et puis, depuis très longtemps, j'apprécie particulièrement les paysages maritimes, bretons en particulier, et Saint-Nazaire, on est encore en Bretagne Sud, quoi qu'en disent certains esprits chagrins. Donc ça avait l'avantage de concilier tous ces attraits.
Mais pour respirer l'air des embruns, vous auriez aussi pu choisir la Baule. Vous sentiez qu'il y avait quelque chose à faire à Saint-Nazaire, socialement?
Je n'aurais pas choisi la Baule parce que c'est pas mon appétit. Si j'osais un raccourci, je dirais que je n'ai pas été élevé comme ça.
Mais on sent bien que vous avez une démarche quand même vis-à-vis de cette ville Saint-Nazaire. D'abord, le choix de la province, c'est pas forcément évident pour, dans la carrière d'un chef d'orchestre, passer comme vous par l'Opéra de Paris, où vous avez dirigé plusieurs opéras et ballets. Je pense à Orphée et Eurydice, Le Barbier de Séville, Paquita, etc. Enfin, il y en a beaucoup. Comment et pourquoi on passe de la fosse du Palais Garnier aux immeubles de Saint-Nazaire?
Eh bien, moi, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Je pense que c'est un devoir des musiciens de faire ce genre de grand écart, entre guillemets. Mais je ne crois pas être très original dans le fait de vouloir le faire. Je suis un peu plus original dans le fait de le faire, effectivement. Mais beaucoup de musiciens partagent ce point de vue. D'ailleurs, je sais que les musiciens de l'orchestre sont très, très heureux de faire ce genre d'initiative dans les cités parce qu'ils sentent que c'est vraiment, ça fait partie intégrante de leur mission, en quelque sorte. Est-ce qu'on peut encore dire aujourd'hui que l'artiste a une mission dans la société? Je crois que oui.
Votre démarche rappelle celle de Jean-Claude Casadesus dans le Nord, qui lui non plus n'était pas du Nord, lillois d'origine, et qui a fait cette démarche d'y venir, et aussi parce qu'il croyait qu'il pouvait apporter la musique à ce territoire. Comme lui, vous jouez aussi, Philippe Huy, dans des lieux fermés, des prisons, des hôpitaux.
Oui, d'ailleurs, en fait, j'avoue que ça a été mon inspirateur. J'ai beaucoup observé ce qu'il faisait depuis très longtemps. Et j'ai eu la chance de le rencontrer assez récemment où je le lui ai dit, que je lui devais ça. Cette volonté-là que j'avais avec cet orchestre, la Philharmonie des Deux Mondes, eh bien, je le lui dois en grande partie. Et je me suis dit, s'il l'a fait, ça veut dire que c'est possible. C'est surtout ça. Donc, alors, on n'a pas encore joué dans les prisons, mais bien sûr, on s'apprête à le faire.
Alors, Saint-Nazaire a ceci de commun avec le Nord, qu'elle a vécu ce choc de la désindustrialisation. Qu'est-ce que vous avez appris de la réalité sociale de Saint-Nazaire quand vous y êtes arrivé et qui vous a aussi donné envie de persévérer?
Quand j'y suis arrivé, en fait, c'était la fin du déclin, en quelque sorte, en particulier des chantiers de l'Atlantique, puisque c'est quand même l'industrie phare de Saint-Nazaire, même si on a parlé d'Airbus tout à l'heure, c'est quand même les deux énormes pôles. Et je vais pas faire un résumé de l'ensemble du bassin industriel. Il y a beaucoup d'autres industries, c'est pas ma spécialité, comme vous le savez, mais effectivement, les chantiers étaient en déclin et puis commençaient à remonter la pente. grâce d'ailleurs à des, ça nous sort beaucoup de notre sujet, mais grâce à des négociations qui ont eu lieu avec les salariés, où j'ai la sensation, enfin en tout cas c'est ce qui a été dit beaucoup, qu'il y avait une forme d'intelligence collective qui s'était manifestée et qui a permis le regain de ces chantiers. Donc aujourd'hui, on est manifestement dans une période beaucoup plus florissante.
Saint-Nazaire se redresse peu à peu.
Saint-Nazaire se redresse peu à peu, absolument.
Quel âge toi ?
8 ans.
Tu t'appelles comment ?
Adem.
Adem. Et toi, t'aimes bien la musique ?
Ouais.
Oui. Il aime bien un peu partout, quoi, comme les enfants, quoi. Bah, les trucs, les musiques qui bougent, quoi. Mais là, c'est comme ça, la musique comme ça, la symphonie et tout ça, ça fait découvrir, surtout pour les enfants, plein de trucs, quoi. Je sais pas, plusieurs différentes musiques, tout ça, tu vois, ça change quoi. C'est impeccable, moi je trouve impeccable comme ça. Même pour nous les grands, pour les petits, tout ça, ça vit bien.
Vous saviez qu'il y aurait un concert aujourd'hui ?
Oui, c'est marqué sur les feuilles comme quoi il y a un concert, tout ça, mais bon après.
Alors là c'est la musique qui vient à vous, mais est-ce que vous intéressez à ça, à la culture ? Est-ce que ça vous arrive d'aller à Saint-Nazaire dans des lieux
Franchement, j'ai pas trop le temps. Mais à la maison, j'écoute un petit peu de musique, quoi.
Quoi, par exemple ?
Je sais pas, un peu de rail, un peu de musique orientale, bah tout, quoi. Tout un petit peu.
Vous aviez prévu ça dans votre emploi du temps aujourd'hui ou vous êtes venu par hasard ?
Non, en fait, j'habite là, j'habite dans le quartier et c'était prévu comme quoi il y avait le truc, tout ça, le concours, tout ça. Et je dis, bah ça tombe bien, l'après-midi, on n'a pas programmé un truc. Je dis, oh, bah, vas-y, on va voir ça, tout ça. C'est bien. Pour tout le monde, quoi, ça va. Ça passe bien.
Écoutez-moi, à vrai dire, ma fille joue dans l'orchestre. Alors c'est pour ça que j'étais particulièrement prête à venir. Mais ce que j'ai adoré, c'est tous ces jeunes qui ont été accueillis par le chef d'orchestre. Voilà.
Est-ce que vous seriez venue ici, dans ce quartier populaire de Saint-Nazaire, si Philippe Huy n'y avait
jamais,
pas
jamais, je ne serais pas venue, je ne connaissais même pas. Et je trouve que c'est formidable, justement. C'est une initiative merveilleuse. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait tout plein de gens qui étaient dans les terrasses et qui, petit à petit, sont descendus. Et c'est ça le principe, d'ailleurs, de ce que veut faire Monsieur Thuy. C'est ce qu'il veut faire. C'est Thuy ou Huy, d'ailleurs, je ne sais pas.
Huy.
Huy, c'est ça. Voilà, c'est ça.
Vous êtes de Saint-Nazaire, vous ?
Du quartier un petit peu plus loin, là, sur Kerlédé, là.
On ne connaissait
oui.
pas.
Mais on ne connaissait pas du tout.
On est passé souvent sur la route.
Souvent, mais c'est vrai qu'on ne savait pas qu'il y avait un square comme ça derrière. Et vraiment, c'est très agréable.
C'est-à-dire que vous voyez les immeubles HLM, oui, mais vous ne saviez pas ce qu'il y avait derrière.
Voilà, pas du tout. Même moi, je vais quelquefois faire mes courses à Intermarché là-bas. J'avais bien vu qu'il y avait un petit square, mais bon, il est caché. Je ne le voyais pas aussi loin. Voilà. Non, c'est très bien, c'est très bien. Bon, je pense que les cordes ont souffert quand même, hein, parce que là, avec la chaleur, je pense que ça souffre. Hein. Oui. Bon, enfin bon, c'est des professionnels, c'est des... Oui, non, c'était un très beau concert, parce qu'il n'y a pas de petits concerts pour les professionnels. Hein. Je crois qu'ils mettent tout leur cœur, tout le temps.
Vous, je vous ai vu à la contrebasse, c'est ça ?
Oui.
Et vous étiez ?
Au violon.
Au violon. Comment ça s'est passé, ce concert ?
C'était chaud. C'était très bien, c'était chaud. La météo a été un peu capricieuse avec les nuages et le soleil, mais c'était super. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'enfants.
Oui. Pendant le concert, vous êtes très concentré sur vos instruments et vos partitions, mais est-ce qu'il vous arrive de regarder la réaction du public ? Et est-ce qu'ici, en plein milieu des immeubles, dans une cour avec des enfants autour et un public dont on dit qu'il n'est pas habitué à la musique classique, est-ce que vous sentez une réaction différente de ce à quoi vous êtes habitué lors de vos concerts ?
Plus expressif, c'est ça qui est agréable aussi. On voit le sourire et l'envie sur le visage des gens et on voit peut-être moins dans le public habituel en fait.
Oui, et puis en plus, comme ici, on a des immeubles autour de nous. On peut, du coin de l'œil, voir qu'il y a des gens sur les balcons. C'est un peu l'effet de l'opéra, mais à la maison, les gens sont au balcon. Et le fait de voir que les gens sont chez eux et ça ne les embête pas qu'on vienne jouer au pied de leur immeuble, c'est un bon indicateur. Et que les enfants jouent à côté aussi.
Oui.
On nous avait dit que ça dérangeait peut-être que les enfants jouent à côté, mais en fait non, ça veut dire qu'on ne les dérange pas.
demandé de mettre des choses plus modernes. Oui, attention. Parce que là, c'était vieux.
Qu'est-ce que ça veut dire, c'est vieux?
Bon, c'est vieux, c'est plus à la mode.
Ah non. Qu'est-ce que c'est qui est à la mode?
Bah, les trucs de maintenant.
Qu'est-ce que t'écoutes, toi?
Bah, des trucs de maintenant.
C'est quoi, MHD?
Bah, c'est...
Ça fait comment? T'as pas là sur ton téléphone?
Bah si.
T'as un Maître Gims.
Regarde.
Mais qu'est-ce que tu racontes avec le Maître Gims, ça?
Quartier là, il y a rien. C'est le seul quartier où il n'y a pas de maison de quartier. Les jeunes, ils sont là, ils font rien. Regardez, tous les jeunes, ils sont avec nous, on les aide.
Ils écoutent dans la voiture.
On les fait manger avec nous tellement qu'il n'y a rien pour eux.
Les gamins là?
Oui, il n'y a même pas de terrain, il n'y a rien dans le quartier.
Vous avez fait un barbecue tout à l'heure.
Ouais.
Et vous trouvez par exemple que ce concert, c'était pas ce que vous attendiez?
Bah, nous, c'est pas pour nous, c'est pour les jeunes. Mais. Nous on a passé l'âge. Nous, on a...
Oh l'autre vas-y, t'es dans le dé ou quoi? Prends ouais. Un bout de pain derrière s'il te plaît. Oh viens donc prendre une saucisse là-bas là, je te
derrière.
Vous avez quel âge?
20 ans.
Christine Ramon, un orchestre symphonique en plein milieu du quartier de la Galicherie, en plein milieu des immeubles HLM, des enfants qui jouent dans le parc, de toutes couleurs, de toutes nationalités, de toutes origines. Ça paraît incongru de premier abord.
Oui, ça peut le paraître, je comprends bien, mais à la fois, nous, c'est notre réalité, c'est la réalité de ces quartiers. En fait, nous, on prépare l'arrivée du concert avec les habitants avant, en fait, dans les semaines qui se passent avant. Et on fait tout un travail d'affichage, de contact direct avec les habitants. Et puis ensuite, il y a le moment venu où là, on arrive avec du matériel, il faut installer les chaises, et en fait, on va vers des habitants un peu que l'on repère, que l'on connaît, et les enfants sur ce quartier-là, en plus, sont vraiment très demandeurs. Donc, dès qu'ils nous voient arriver, ils nous reconnaissent et ils arrivent et ils font tout ce qu'il y a à faire.
Vous êtes directrice de la Fédération des maisons de quartier de Saint-Nazaire. Est-ce que c'est, je pense aux jeunes en particulier, est-ce qu'ils ont accès à une certaine forme de musique, pas forcément musique classique, mais au quotidien, qu'est-ce qui leur est proposé dans ces quartiers-là?
Alors, il n'y a pas de choses au quotidien de proposer, c'est clair. Par contre, c'est vrai qu'en parlant plus particulièrement des jeunes, on essaye de les accompagner, soit sur des concerts, soit nous-mêmes on fait venir des petites formations. En fait, c'est même arrivé dans un quartier qu'on a dans les appartements des habitants. C'est pas au quotidien malheureusement, mais on arrive quand même à faire des choses.
Est-ce qu'il faut forcément la leur apporter, la leur offrir pour qu'ils y aient accès, ou est-ce que eux d'eux-mêmes ont envie d'aller à ces concerts-là?
Je pense qu'en fait, ça, après, on peut pas faire une généralité. C'est vrai que tous les jeunes sont différents. Il y a ceux qui vont s'organiser, qui vont avoir même être demandeurs de concerts en particulier. Donc en fait, après, le lien qu'on fera avec eux, c'est plutôt trouver les moyens financiers, l'accompagnement, etc., etc. Et puis il y a ceux qui vont écouter beaucoup de musique parce qu'ils écoutent quand même pas mal de musique, hein, soit à la télé, soit à la radio, soit sur tous les supports possibles. Mais en revanche, ils vont pas forcément dans une démarche d'aller vers.
Alors pour X raisons, hein, je pense que des fois ils se l'autorisent pas, ou ils pensent que c'est pas pour eux, ou que c'est de la musique qui leur convient pas. Il n'y a pas forcément cette curiosité d'aller voir et de prendre le risque d'aller voir. Donc là, c'est vrai que nous, en fait, on essaye de faire des choses sur les quartiers, et ensuite, on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, on réussit à faire des choses avec eux, voire en faire monter certains sur scène, parce que malgré tout, sur les quartiers, pas malgré tout, c'est pas le bon terme. Sur les quartiers, il y a beaucoup de personnes qui ont des talents cachés, entre guillemets. Et c'est vrai que si on s'approche de ce public, et on s'aperçoit tout de suite qu'il y a une curiosité, une attention, voire l'envie de donner des coups de main. Et après, du coup, on peut aller plus loin dans la découverte des musiques. Et puis, à un moment, ça sera plus chez eux, mais on les emmènera, voire à un moment, nous, on arrive à amener des populations qui vont prendre elles-mêmes leurs abonnements à des salles de spectacle sur Saint-Nazaire ou alentour, et qui, à certains moments, vont partir au spectacle sans nous, sans accompagnement. Alors, des fois, ça peut demander 5 ans, ça peut demander plus que ça. C'est un travail de longue haleine et qu'il ne faut jamais arrêter.
On l'entend, la météo ne s'était pas trompée, si ce n'est qu'à orage, elle aurait pu ajouter déluge. Rassurez-nous, Philippe Puy, la qualité de votre interprétation n'est pas en cause.
J'espère que non. En tout cas, on avait prié, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais on avait
beaucoup invoqué
les esprits pour qu'ils ne pleuvent pas avant la fin du concert, et nous avons été exaucés.
Ah bah c'était incroyable, moment de grâce avant la grêle, parce qu'à peine vous aviez remballé les instruments qu'une pluie de grêle s'est abattue sur Saint-Nazaire.
Oui, d'ailleurs, je crois que Saint-Nazaire va être déclaré ou a été déclaré en état de catastrophe naturelle suite à cet événement climatique. Donc on a vraiment eu beaucoup de chance.
Il s'en est fallu de peu pour que la deuxième symphonie de Beethoven se transforme en symphonie pastorale. Mais c'est bien dans celle-ci qu'il y a de l'orage.
Mais c'est dans celle-ci qu'il y a de l'orage, bravo, absolument.
Bon, Christine Ramon, Philippi, vous l'avez entendu, dit que ces jeunes de ces cités-là n'ont pas forcément la curiosité d'aller voir ou d'écouter forcément cette musique. Et d'ailleurs, c'était intriguant de voir ces jeunes de 20 ans qui faisaient un barbecue juste de l'autre côté de l'immeuble, à même pas 30 mètres de là, et qui n'ont pas fait quelques pas pour venir écouter. Vous l'interprétez comment, vous ?
Moi, l'analyse que j'en fais, c'est que à 20 ans, c'est déjà un peu trop tard.
C'est-à-dire que c'est ce qu'ils disent d'ailleurs, on est déjà trop vieux.
D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent. Ils disent c'est plus de notre âge. Alors que j'espère que les petites graines que l'on sème auprès des enfants de 5 à 15 ans, en quelque sorte, vont produire des fruits un peu plus tard. En fait, c'est ça l'objectif. Hein, c'est que je crois que c'est quelque chose, et là où je rejoins totalement ce que a dit Christine Ramon, c'est une œuvre de très longue haleine. Il faut être patient et il faut être courageux. Et c'est à force d'enfoncer le même clou que je pense on arrivera à ne plus avoir ce type de réaction, justement en disant c'est pas pour nous. Moi je pense que c'est fait pour tout le monde.
Mais on sent d'ailleurs toute l'énergie que vous mettez à convaincre les jeunes dans le public, et ce sont eux que vous mettez à contribution le plus possible quand vous trouvez qu'ils sont à peu près demandeurs dans leurs yeux. Comment on met de la volupté dans la rigueur pour attirer les jeunes ?
Mais je crois d'abord que la rigueur, tout le monde en a besoin, même si on ne le sait pas forcément. Et que finalement, que chacun puisse se retrouver dans un cadre assez rigide, j'aime pas dire ça, mais rigoureux en tout cas, et assez strict, eh bien, je crois que c'est assez rassurant. C'est pas très nouveau, hein. Il y a beaucoup de théories d'ailleurs là-dessus dans le domaine de l'éducation. Eh bien, je pense que l'orchestre symphonique, la pratique de l'orchestre, est pour ça une excellente école de la vie. Parce que c'est une école de la rigueur et c'est une école de la solidarité. Je dirais que ces deux valeurs-là sont des valeurs qui parfois peuvent sembler nous manquer un peu dans notre société, et ça serait pas mal qu'on s'en inspire un peu plus.
Bien que vous, Philippe, en tant que chef d'orchestre, tourniez le dos évidemment la plus grande partie du temps, est-ce qu'il y a une forme d'interpellation ? Est-ce que vous les sentez, tous ces jeunes qui sont derrière vous ? Est-ce que vous leur dites, allez, vous mettez tout ce que vous avez justement pour eux ?
Mais en fait, quand on est de dos comme ça, et en dirigeant l'orchestre, moi je sens l'énergie du public, et je peux dire quelle est la qualité d'écoute du public. Alors, j'entends pas les bruits parasites. Il y a une anecdote d'ailleurs, parce que le premier concert de l'orchestre, il y a eu deux personnes qui ont été évacuées pendant qu'on jouait la 7e symphonie de Beethoven. Et je n'ai strictement rien entendu. Je m'en suis même pas rendu compte. En revanche, l'énergie du public, je la sens. Donc je sais s'il y a de la tension, s'il n'y en a pas, si voilà. Et donc l'énergie des enfants qui sont très souvent au premier rang en plus, eh bien effectivement on la sent. D'abord parce que au début, peut-être ça vous a frappé, mais au début du concert, les enfants ont beaucoup bavardé, ont même chahuté en quelque sorte. Et puis au fur et à mesure, ça s'est beaucoup estompé. Et ils ont fini par être captivés, je l'espère, par l'orchestre, en tout cas être beaucoup plus attentifs. On a déjà réussi quelque chose là.
On comprend bien votre démarche, Philippe Huy, à mener cette musique classique à ceux qui n'y ont pas accès ou qui se privent de cet accès-là. Pendant longtemps, être apprécié d'une minorité, c'était presque un gage de qualité.
C'est encore comme ça. Je pense qu'il y a un certain snobisme aussi. En fait, c'est un problème un peu compliqué parce que d'une part, il y a un snobisme par rapport à certaines pratiques culturelles et d'autre part, il y a une partie de la population qui se sent exclue de l'offre culturelle. Ça ne veut pas dire qu'elle en soit exclue parce qu'il y a une offre finalement qui est assez importante, mais elle se sent exclue, elle se dit « ce n'est pas fait pour moi ». Et donc c'est ce nœud-là, en quelque sorte, qu'il faut réussir à trancher et ça, ce n'est pas facile. Et je crois que une des bonnes solutions, c'est d'aller vers ce public-là en lui proposant des choses qui sont plus favorables que d'autres pour cet exercice-là. C'est pour ça que je pense que l'art symphonique et l'art symphonique classique, romantique en particulier, se prête particulièrement à l'exercice.
Ceci dit, vous, Philippe Huy, vous jouez dans les cités comme dans les plus belles salles du monde, mais ces salles-là, votre public de Saint-Nazaire n'y a pas accès, a priori, à cette beauté-là ou cet élitisme.
Eh bien, j'ai envie de dire que si, mais elle ne le sait pas. Voilà, tout le monde dit, par exemple, à l'Opéra de Paris, c'est pas possible d'avoir des places. Et c'est faux. C'est simplement qu'on croit qu'on ne peut pas faire la démarche. Il y a une légende qui court qui dit que pour aller à l'Opéra de Paris, il faut être très bien habillé. Ça fait des décennies que c'est fini, cette chose-là. Donc, il y a toute une rééducation, en quelque sorte, à faire, je pense.
Et il vous arrive, vous, de retrouver dans le public, par exemple, du théâtre de Saint-Nazaire, quand vous y jouez, de retrouver des personnes que vous avez interpellées, que vous avez rencontrées dans ces cités ?
J'ai pas vu des gens venir au concert, au théâtre, par exemple, mais j'ai vu des gens, à la fin d'un concert promenade, me dire « nous irons au théâtre ». On ne savait pas que c'était ça, et maintenant qu'on sait ce que c'est, on va venir.
Alors je suis sûr que dans l'assistance, il y en a certains qui ont envie de tenter l'expérience de conduire un orchestre, ce qui est presque aussi facile que de conduire une voiture. Donc je suis prêt à céder la place à qui le veut pour une expérience inédite dans le troisième mouvement, peut-être dans les jeunes. Il y a souvent des jeunes qui sont audacieux, la jeunesse est audacieuse, n'est-ce pas? Donc s'il y en a qui ont envie de venir s'essayer, les musiciens sont prêts à les accueillir, voilà. Mais même des anciens jeunes, ça marche aussi, hein. Et je reste à côté pour faire la conduite accompagnée, hein, donc il n'y a pas de problème. Alors, je sens qu'il y a un frémissement de ce côté-là, sur tribord, sur votre bâbord à vous. Alors, lequel va commencer? Ah, voilà, d'accord.
Alors, à quel chef d'orchestre en devenir ai-je l'honneur? Comment vous vous appelez?
Moi, c'est Boubacar.
Et
toi?
Victor.
Si, Sophie, là, qui a fait
le chef d'orchestre. Ah, mais toi aussi, t'as fait le chef d'orchestre, mais je t'avais pas vu.
On a une famille de chefs d'orchestre.
Bon, alors, c'était comment, cette expérience?
Impressionnant. C'était au début, quand on regardait, c'était petit, mais quand on fait le chef d'orchestre, en fait, c'est énorme. Ouais.
C'est beaucoup plus impressionnant.
Ouais. D'un coup, quand on va devant, il y a beaucoup, on a l'impression beaucoup d'instruments. C'est bien.
Oui, t'as l'impression que c'est facile quand tu fais, mais au final, tu te rends compte qu'en fait, non, c'est très technique.
Il faut faire comment dans la gestuelle?
Faire le tempo. Faut suivre le tempo, faire le rythme.
Ouais. Au fait, il faut être un peu rapide aussi et faire en douceur aussi. Ouais.
Je crois qu'il y a une violoncelliste qui t'a fait un petit signe.
Elle m'a fait une petite signe pour dire que je fais rapide un peu.
Est-ce que vous faites de la musique, tous?
Moi, je fais de la guitare. Moi, pas vraiment, mais mon père, il faisait de la guitare et bah, j'aime bien.
Tu grattes un petit peu?
Bah oui, ça m'arrive.
C'est pour cela,
dès le début, elle a dit de passer. Par contre, c'est la première fois que je fais l'orchestre.
Comment?
C'est la première fois que je fais le chef d'orchestre. Ça fait bizarre.
Oui, parce que aussi, c'est pas facile de faire aussi le chef d'orchestre. Parce que là, s'arrêter devant la masse aussi, c'est pas très facile.
Tout le monde regarde.
Ouais, tout le monde te regarde aussi.
C'est terrifiant, ça.
Ouais, c'est terrifiant.
Qu'est-ce que vous écoutez comme musique?
Moi, j'écoute le rap.
Ouais. Qui comme groupe?
Il y a Booba.
Forcément.
Il y a Youssoupha aussi.
Téléphone. Moi, téléphone.
Téléphone? C'est pas de ta génération, ça.
C'est trop bien. Ouais. C'est le meilleur groupe de rock du monde.
Ça, c'est ton papa qui t'a fait écouter
même
téléphone.
Mon frère aussi, j'adore.
C'est mon papy.
C'est trop bien.
C'est mon papy.
Bon, alors là, vous allez rentrer chez vous. Vous allez mettre un disque de Beethoven.
Non, c'est pas d'abord. Ça dépend.
D'abord Booba et après on verra.
Ouais, on verra.
Oh bah, je suis pas vraiment très classique, mais mon grand-père il aime bien.
Moi je suis allée voir un concert et j'avais vu de la guitare et du coup c'est pour ça que j'ai eu envie de faire de la guitare.
J'aimerais faire aussi de la guitare aussi.
C'est un projet qui va se concrétiser?
Ouais, peut-être, je pense, parce que j'ai envie de faire aussi le foot aussi.
Foot ou guitare?
Ouais, entre les deux, ça dépend.
Où est-ce que vous avez le plus de chances de percer?
Au foot.
Eh ben, bonne chance.
Okay, merci.
L'a suivi. Hein, on a ralenti, comme vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? Elle a ralenti, l'orchestre a suivi. Donc ça, ça prouve que vous êtes fait pour ça.
Alors, oui, ça vous a plu, cette expérience de chef d'orchestre?
Beaucoup, beaucoup, parce que quand j'étais jeune, mon père était amateur de grande musique et tous les samedis, il fallait se taire pour écouter la grande musique. Mais c'est vrai que moi, j'apprécie beaucoup.
C'est quoi la grande musique?
Eh bien, tout ce qui est Mozart, tous les grands auteurs, quoi, tous les grands musiciens. Hein. Mais sinon, là, je trouve que c'est très intéressant. Et puis, ça va peut-être amener la jeunesse un peu à la musique aussi, à la grande musique, parce que c'est mieux que le rap et tout quand même. C'est plus agréable à écouter.
Alors vous, madame, vous vivez
moi,
juste
en face?
Moi,
j'habite à l'Astrolabe, oui. 9 rue Paul-Émile Victor. Puis on s'apprêtait à s'en aller. Et puis j'ai entendu de la grande musique. Alors on est rentré parce que c'est impressionnant. Puis à conduire un orchestre, c'est la première fois de ma vie. Je m'en rappellerai toujours. Hein.
En fait, c'est comme ça que ça s'est passé. Vous avez entendu des notes et vous êtes venu.
Voilà.
Elle a commencé à
exactement.
Pleurer en disant « je veux aller voir, je veux aller voir ». Alors j'ai dit « bon, on va aller voir ».
Non, vraiment, non, mais c'était très bien, très intéressant. Et ça, moi, ça me touche. C'est pareil, quand un paquebot, il s'en va et qu'il corne, ça vous touche au cœur. Et bien là, c'est pareil. La grande musique, c'est exactement pareil. Voilà. Pour moi, c'est des sons qui sont irremplaçables. Voilà, je vous remercie pour tout ça, parce que ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur un petit peu d'avoir ça dans sa commune, quoi. Puis ça... Je sais pas, ça met un peu d'ambiance dans le quartier, tout ça. Puis je vous dis, c'est surtout pour les jeunes à venir, quoi, qui connaissent autre chose que le rap et tout ça. C'est tellement plus beau, la grande musique. Voilà, sinon, bah, j'ai jamais appris le solfège, à ma grande déception.
On dirait pas.
Mais oui, bah. Merci beaucoup, en tout cas. Au revoir. Merci.
Bonjour. C'est quoi comme radio?
C'est France Culture.
Ah, j'adore. Ah, j'aime bien FIP aussi. Dans le jardin, j'écoute que FIP. Et RTL, bien entendu, grosse tête. Tu vois.
Vous appelez Mireille, hein, c'est ça?
Muriel.
Ah, Muriel.
Ouais, on dit Mumu ici, parce que je suis bénévole ici, au Secours Populaire. Et j'habite d'à côté.
Vous êtes dans le quartier, là?
J'habite juste là, le balcon. Donc, j'habite juste à côté.
Vous avez vu un peu vos voisins sortir leur tête du balcon quand la musique
ouais,
a commencé?
Ouais, mais c'est un peu dur. Dans ce quartier-là, tu vois, c'est des quartiers un peu enclavés. Il n'y avait rien, tu vois, dans le temps. Donc là, maintenant, à l'heure actuelle, pour qu'ils bougent... Alors pourtant, il y a plein de choses. Hein. Là, sur le quartier, il y avait un truc pour les jeunes.
il y a un truc place plein carré pour échange de plantes et ils viennent pas quoi.
Donc, échange de plantes.
Échange de plantes, place point carré, il y a un truc, t'amènes une plante, tu repars avec une plante. Mais les gens, ils bougent pas, je sais pas ce qu'ils ont. C'est un peu dommage parce que dans le temps, moi ça fait 25 ans que j'habite là, les gens ils sortaient, se parlaient en bas. Maintenant, les enfants, c'est très rare. Je trouve ça dommage quoi. Parce que là, on a, quand même, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Tu vois, le bâtiment, on en a 4 comme ce bâtiment-là, plus celui-là. On aura tous mis un petit carton d'invitation, ils sont pas venus quoi. C'est dommage.
Qui sont les habitants de ce quartier ?
Il y a un peu de tout. Hein. C'est donc habitation à loyer modéré là. Mais il y a quand même tous les riverains avec des jolies petites maisons autour et une petite cité.
Un lotissement.
Un petit lotissement. Les maisons sont sympas. Donc voilà, je trouve ça dommage quoi. Moi, je trouve que c'est vrai, c'est un peu triste quoi. Mais je crois que c'est le cas partout. Hein. Les gens, ils sont là avec leur portable. Ils écoutent la musique avec leur portable, tu leur dis bonjour, ils t'entendent pas, quoi. C'est dommage. Hein. Et ma voisine, moi.
Il y a votre voisine, là ?
Ouais, ma voisine.
Où ça ? Parce que
moi, j'ai le balcon, là, donc elle est à côté. Elle me fait coucou. Alors, peut-être que les gamins peuvent pas accéder à la musique, hein. C'est peut-être à faire de la musique, enfin, un instrument, c'est aussi cher, hein. Mais non, mais c'était sympa, quoi. J'ai bien aimé le truc d'orchestre, là. J'étais impressionnée, mais...
Vous avez fait la chef d'orchestre,
ouais. Ouais, j'ai trouvé ça super sympa, hein. Mais j'étais impressionnée, j'étais étonnée, tu vois, moi-même. J'étais tout intimidée.
Merci Mumu, merci. Muriel.
Merci, à la prochaine.
Au revoir.
Philippe Huy, quant à la fin du concert, des personnes du public se portent candidates pour faire le chef d'orchestre et que vous accompagnez les premières mesures, vous tenez le bras du candidat et vous accompagnez la baguette. Est-ce que vous sentez quelque chose qui se transmet l'espace de quelques secondes, une émotion ?
Ben, je pense que oui, moi je le ressens ça, mais je n'aime pas trop le mot candidat, honnêtement, même si je l'ai moi-même employé d'ailleurs, parce que ça donnerait une dimension un peu de concours à la chose, alors que c'est pas ça. L'idée des volontaires. L'idée de cette chose qu'on a mise en place dès le départ, hein, dès le premier concert promenade, c'est vraiment dans cette volonté de désacraliser la musique, en fait. Au-delà de la démocratisation, il y a aussi le fait de la désacraliser. Parce que si on veut laisser penser que c'est fait pour tout le monde, eh bien, il faut que ça cesse d'être cet objet pour lequel on aurait une vénération totale, disons qu'il l'emprisonnerait dans quelque chose, dans un cocon interdit à ceux qui ne seraient pas initiés. Mmh. Hein, je pense que c'est important de lui apporter du respect, bien entendu, mais en s'en rapprochant au maximum. Donc cette expérience de direction d'orchestre par des néophytes, elle est intéressante pour ça.
Jean-Claude Cazadesus, que vous citiez tout à l'heure, dit que initier les jeunes à cette musique en les faisant participer, c'est leur donner conscience de leur propre grandeur.
Oui, mais je partage totalement cette analyse, évidemment. Je pense que dans chaque être humain, et en particulier dans les enfants, il y a quelque chose de beau et de grand et de créatif. Et donc il faut absolument mettre ça en avant. C'est pour ça que c'est important, à mon avis, qu'il soit le plus possible et le plus tôt possible confronté aux belles choses, même si on sait que c'est exigeant, même si on sait que c'est difficile. Il y a un philosophe très célèbre qui disait « c'est pas le chemin qui est difficile, c'est difficile qui est le chemin ».
Vous avez découvert la musique à quel âge, Philippe Huy ?
J'ai découvert la musique, moi j'ai eu de la chance, j'ai découvert la musique quand je suis né, puisque mon père était pianiste amateur et jouait à l'époque du piano tous les jours. Donc j'ai été baigné dans ce monde-là depuis que je suis né.
D'ailleurs, vous n'avez pas pu vous empêcher, hein, quand vous êtes entré dans le studio de France Bleu, il y a un quart de queue Pleyel, vous avez foncé dessus.
Oui, c'est un appétit comme un autre, n'est-ce pas ?
Qu'est-ce que vous espérez de ces néophytes qui se portent volontaires, donc quand vous proposez de venir prendre votre place à ces concerts en plein air? Qu'est-ce que vous espérez en leur tendant la baguette, et peut-être des émotions qu'ils vont découvrir à ce moment-là?
En fait, aussi, ce qui a alimenté ma réflexion par rapport aux actions qu'on mène, qu'on met en place, c'est que j'ai été très marqué, dans un sens pas très positif, par les fameux concerts éducatifs qu'on a beaucoup. Où finalement on amène des classes complètes de primaire qui la plupart du temps ont été peu ou pas préparées. Ça arrive aussi qu'ils le soient, mais la plupart du temps c'est pas le cas. Ils assistent à quelque chose dont ils comprennent peu ou pas les codes et les rites, et puis ils sortent de là. Et bien souvent, eh ben, ils se disent « j'y suis venu une première fois, mais c'est la dernière fois ». Le fait de les faire participer, même si c'est un peu anecdotique finalement quand même, qui dirige l'orchestre, ben, c'est de leur donner une plus grande proximité, et puis une proximité aussi des instruments, et de la sensation sonore, déjà ne serait-ce que ça, d'être au milieu de l'orchestre, d'être tout près aussi des instrumentistes en train de faire l'effort de jouer de la musique, et je crois que ça peut créer des sensations inédites.
La sensation de sculpter le son ou de le toucher. Je vais me faire l'avocat du diable, Philippe Hu, pour la fin de cette émission. Est-ce que parmi vos collègues plus institutionnels, on vous a déjà reproché un côté démago?
Pour l'instant, personne ne me l'a jamais dit. Moi, la conviction que j'ai, c'est que c'est à nous tous qui avons la chance d'avoir eu cette culture-là, de montrer le chemin. C'est à nous tous de montrer ce qui doit être montré, en quelque sorte. Je me rappelle très très bien de la réflexion d'un conseiller culturel dans un ministère il y a quelques années, qui avait dit au président de TF1 de l'époque, montrer de la musique classique à TF1, et le président de TF1 lui avait répondu, nous on montre ce que les gens ont envie de voir. Et ce conseiller avait répondu, mais non, c'est votre devoir, c'est de montrer justement le chemin, de montrer des choses différentes, parce que de toute façon, les gens vous regarderont.
Bon, finalement, le message a sans doute été entendu, puisque l'un de vos concerts, l'année dernière, a fait l'objet d'un joli reportage sur TF1. Donc, c'est que sans doute, ce conseil-là a été donné. On n'a pas vu d'élus lors de ces concerts promenades, là, samedi dernier. Ceci dit, ça nous a épargné quelques discours lénifiants et remerciements en cascade, mais qui vous soutient financièrement?
Eh bien, aujourd'hui, la DRAC des Pays de la Loire nous soutient, qui est le bras armé, en quelque sorte, du ministère de la Culture en région. Le conseil départemental nous a promis sa participation en 2016, parce que je crois qu'ils sont très intéressés par le fait qu'on va dans l'ensemble du département. On a beaucoup parlé des concerts promenades aujourd'hui dans la ville de Saint-Nazaire, mais on va aussi dans les villes les plus reculées du département. Et puis peut-être qu'un jour la ville de Saint-Nazaire participera financièrement, sait-on jamais.
Peut-être qu'ils nous entendent. Vous devez sans arrêt convaincre. La culture est toujours le dernier maillon de la chaîne.
La culture est malheureusement encore le dernier maillon de la chaîne bien souvent.
Ce qu'on peut comprendre aussi dans une ville comme Saint-Nazaire où beaucoup d'argent vont à l'aide sociale.
Oui, mais de donner de l'argent à la culture, c'est aussi de l'aide sociale. Je pense que c'est très important. Quand nous faisons nos répétitions à la Fraternité, qui est un lieu d'accueil de jour, de personnes en très grande précarité, eh bien je considère qu'on participe aussi de cette mission.
Et la musique est encore plus belle si elle est partagée. Merci beaucoup Philippe Hu d'avoir été avec nous ce soir. Alors vous continuez à mener votre carrière de chef d'orchestre par ailleurs. Quelles sont vos prochaines dates, prochains événements?
Eh bien le prochain événement, c'est le plus important maintenant, ce sera le festival d'Offenbach d'Étretat. Au début août.
Ça sera début août. Merci à vous. On met toutes les références en ligne sur notre site internet. Vous avez les dates sont sur le site de la Locomotive des Arts.
Notre Absolument, oui.
Petite entreprise poursuit sa route. Yvon Croisier au volant, copilote Sophie Bobert. Merci à France Bleu Loire-Océan pour son accueil. À la technique, c'était Olivier Ferroux.
Un grand merci pour votre accueil.
La semaine prochaine, nous serons sur la route des disparus de Perpignan, ce fait divers qui a ému les habitants de la préfecture des Pyrénées-Orientales entre 1995 et 2001. Quelles leçons en a tiré cette préfecture? Eh bien, nous serons avec l'avocat des familles des victimes, maître Étienne Nicolo. Il est bientôt 19h sur France Culture, l'heure de retrouver Marie-Hélène Fraissé pour Tout un Monde.